Les infos à Washington.
Claire Moragibourg avec vous en direct du studio de la rédaction de VOA Afrique. Bienvenue dans notre bulletin d'information. Une enquête a été ouverte en France après la mort d'un universitaire guinéen mortellement agressé vendredi soir près de Rouen, peu avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. De sources policières, Mamoudou Barry, 31 ans, a été agressé à Canteleu dans la banlieue de Rouen. Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé, mais il est malheureusement décédé hier. Selon la presse guinéenne, le jeune homme a été agressé par des supporters de l'Algérie qui affrontaient le Sénégal en finale de la CAN 2019. En République démocratique du Congo, un chef traditionnel et quatre civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans deux attaques dans le territoire de Beni, dans l'est du pays. Le major Mac Azouké, porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu, a affirmé que ces hommes avaient repoussé une attaque des ADF, les rebelles musulmans ougandais, à Makboko, près d'Oicha. La seconde attaque a eu lieu à Eringiti, à 60 km au nord de Beni. C'est ce qu'a confirmé Donat Kibawa, administrateur du territoire de Beni. Au Soudan, un homme est mort alors qu'il était détenu par le NISS, le Service National de Renseignement et de Sécurité, à Dilling, au Kordofan Sud. Un comité de médecins lié au mouvement de contestation a affirmé qu'il était mort après avoir été torturé. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a dénoncé aujourd'hui comme irrévocablement biaisé le rapport de la médiatrice de la République. Ce rapport affirme que le président a délibérément trompé le Parlement quand il a répondu à une question de l'opposition sur une donation à sa campagne de 500 000 randes faite par un groupe industriel. En Algérie, plusieurs partis d'opposition ont posé des questions au dialogue proposé, au dialogue proposé par les dirigeants, dont la libération des détenus politiques et le départ du système au pouvoir, des revendications du mouvement de contestation qui secoue l'Algérie depuis février. Le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, a proposé début juillet un dialogue national pour préparer la présidentielle, dans lequel ni les autorités ni l'armée ne seraient impliquées. L'organisation SOS Méditerranée, associée à Médecins Sans Frontières, a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de sauvetage au large des côtes libyennes, 7 mois après l'immobilisation de son navire l'Aquarius. C'est un nouveau bâtiment norvégien, cette fois l'Ocean Viking, qui fait route vers la Méditerranée pour mener une nouvelle campagne de recherche et de secours. Au moins 426 personnes sont mortes en Méditerranée depuis le début de l'année, selon cette ONG.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le reste de l'actualité dans le monde. Nouvelle manifestation monstre à Hong Kong ce dimanche. Près de 430 000 personnes ont protesté contre le gouvernement local pro-Pékin. Ce mouvement est parti d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine début juin. Au Pakistan, 6 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées dans un attentat perpétré par une femme kamikaze à l'entrée d'un hôpital du village de Kotlan Saidan, dans le nord-ouest du pays. L'attaque a été revendiquée par les talibans pakistanais. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a persisté dans ses violentes attaques contre les 4 élues femmes démocrates du Congrès issues de minorités qu'il a qualifiées de faibles et instables. Je ne crois pas que les 4 élus du Congrès soient capables d'aimer notre pays, a-t-il déclaré aujourd'hui dans un tweet. Depuis une semaine, Donald Trump est sous le feu des critiques pour ses attaques contre ces femmes, à qui il a plusieurs fois conseillé de retourner dans les pays d'où elles viennent, alors même que 3 d'entre elles sont nées ici aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le ministre des Finances, Philip Hammond, a déclaré qu'il démissionnerait si Boris Johnson remportait la succession de Downing Street. Les Britanniques connaîtront mardi le nom du successeur de la première ministre conservatrice, Theresa May. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et sur notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir chez vous, chers fidèles auditrices et auditeurs de la Voix de l'Amérique, le dialogue des religions. Nous parlons ce soir de la science et de la foi. Pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune. C'était le 20 juillet 1969. Ainsi, l'agence spatiale américaine, la NASA, à travers sa mission Apollo 11, remplit l'objectif fixé par le président John Kennedy en 1961 de poser un équipage sain et sauf sur la Lune avant la fin des années 60. On parle de Apollo 11 parce que à l'époque au Sénégal, il s'est passé un phénomène et que certains croyants lient à la foi. Nous allons avoir l'imam Omar Dien qui se trouve à Dakar. Imam Dien, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce dialogue des religions.
Merci, c'est le plaisir pour moi.
Nous aurons également le père Steve Mike qui va nous rejoindre bientôt au téléphone. Nous avons Imam Dien en ligne. Imam Dien, quand on parle de la maladie d'Apollo, vous en savez quelque chose?
Oui, à Dakar, la maladie d'Apollo a apparu quand Apollo est allé, je pense que c'était Apollo 11, quelque chose comme ça, sur la Lune. Et c'était pour la première fois qu'on devait marcher sur la Lune. Et les gens ont dégagé que c'est la poussière qui a quitté la Lune pour aller sur la Terre qui a amené cette maladie. On avait des yeux rouges et avec beaucoup de frais là. Mais quand même, c'était un phénomène peut-être de microbes terrien. On a préféré appeler Apollo pour simplifier la chose parce que c'était un événement du siècle.
C'était de la conjonctivite, n'est-ce pas?
C'était de la conjonctivite, oui.
Et
on avait dénommé Apollo.
Oui, on se rappelle de cette vague de poussière qui a enveloppé l'Afrique de l'Ouest et centrale. Maintenant, on parle de la science et de la foi. Que dit le Coran ou l'islam?
L'islam a prédit que les hommes, un jour dans la recherche, iront sur la Lune, pas sur le Soleil, et découvriront d'autres continents. Comme ils ont découvert d'autres pays, comme Christophe Colomb a découvert peut-être l'Amérique. Et éventuellement, la science est un art qu'il faut aller découvrir en osant affronter les difficultés. Et par la sagesse, l'homme arrivera un jour à créer beaucoup de choses. Nous en sommes au robot. Et maintenant, vous avez vu qu'on a les téléphones portables. À distance, on communique. Et ça, c'est pas un événement dans l'islam parce que ça existe déjà dans les textes. Donc, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Mais tout le monde ne le maîtrise pas, tout le monde ne le connaît pas. Parce que c'est des recherches et des paramètres qui sont un peu difficiles à maîtriser. Parce que l'islam l'a peut-être annoncé, mais n'est pas rentré dans les jeux de calcul. Parce qu'il faut faire des jeux de calcul pour pouvoir voyager sur cette distance. Sur la pression atmosphérique et tous les défis que vous allez confronter pour y arriver. Donc c'est un événement, c'est un défi que l'homme a affronté, a trouvé. Et il reste beaucoup d'autres choses qui restent qu'on n'a pas encore ouvert ou qu'on n'a pas encore vu. Mais qu'on découvrira un jour, Inch'Allah.
Avant de passer la parole au père Steve, Imam Dien, est-ce que le regard que vous portez sur la science, vous êtes imam, est-ce que l'imam traditionnel le voit de la même manière?
À peu près oui, parce que maintenant, bon, il y a une révolution qui s'est faite justement par les téléphones et la télévision. Ou même que ton appareil téléphonique, tu peux filmer, photographier et puis communiquer avec quelqu'un en le voyant. Donc c'était prédit. C'est des choses qui sont arrivées maintenant et qui sont à la portée de tout le monde. et chacun, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont des téléphones qui s'appellent, ta femme peut être en Amérique, que tu sois en Afrique, et vous communiquez en vous regardant et en parlant. Peut-être on n'arrive pas à le faire en même temps parce que le fuseau horaire existe, mais maintenant c'est une facilité, ce n'est plus un événement. Les gens sont habitués à le faire et à le vivre.
Gardez la ligne, Imam Dien. Nous avons le Père Steve en ligne. Père Steve, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous avez suivi une partie de cette discussion. Que dit l'Église par rapport à la science?
Alors, l'Église dit que la foi et la science ne sont pas contradictoires, mais complémentaires dans le sens où elles ont deux objets différents. C'est-à-dire que le but de la foi, un des buts en tout cas, c'est de répondre au pourquoi des choses, c'est-à-dire à la finalité dernière des réalités existentielles de l'homme, tandis que la science et la raison, en l'occurrence, répondent au comment des choses, à la technicité des choses. C'est-à-dire que la science, elle est appelée à se performer. D'ailleurs, l'évolution des sciences nous montre que certaines hypothèses soit ont été vérifiées, soit ont été complétées par d'autres découvertes. Donc là, le rôle de la science est de venir, grâce à la raison humaine, répondre à certaines questions que l'homme peut se poser. Alors la foi n'est pas là forcément pour répondre à tout ce que la science ne peut pas répondre, mais force est de constater que pendant dans le passé, dans l'évolution des relations entre foi et science, il a été question beaucoup de préjugés, de mécanismes de défense, comme si la foi redoutait que la science est une sorte d'anti-dieu et de l'autre côté que la foi, enfin que la science relègue la foi à tout ce qui n'est pas raison. Alors maintenant, l'Église catholique, en particulier depuis le Concile Vatican II, dit que la foi et la raison sont les deux ailes complémentaires qui mènent la raison vers la vérité. Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, y a particulièrement insisté dans une encyclique qui s'appelle Fides et Ratio, ça veut dire foi et raison. J'attire également votre attention sur le fait qu'un certain nombre de découvertes de la science ont été le fait par le passé de religieux. Et on peut en citer dans toutes les religions. Alors, pour me limiter à la mienne, je vous ferai montre par exemple que le père de la génétique, c'est-à-dire celui qui a fait les premières expériences sur la génétique des plantes, par exemple, est un moine catholique. Vous avez, donc c'est le père Gregor Mendel. Vous avez également un des maîtres de l'astronomie, je dis bien astronomie à ne pas confondre avec l'astrologie, c'est-à-dire l'étude des astres, qui est un grand mathématicien de Georges Lemaître. Ou encore, pour donner un autre exemple célèbre, celui qui est l'auteur de ce qu'on a appelé la révolution copernicienne, c'est-à-dire le fait que de savoir que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, comme on le pensait, mais que c'est la révolution de la Terre, mais c'est autour du soleil. C'était Copernic, qui était un chanoine, c'est-à-dire un prêtre avec un titre honorifique catholique. Alors, ceci pour dire que les relations, elles ont été tendues, mais elles sont complémentaires. Seulement, et là où je rejoins l'imam, je le remercie d'ailleurs de son intervention, la foi appelle à une forme de modération de la science. Vous connaissez tous le célèbre adage de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, les avancées technologiques, elles auront lieu. Là, on parle maintenant de l'homme augmenté, c'est-à-dire ce qu'on voyait dans les années 80-90, l'homme bionique, on y est, c'est-à-dire on commence à faire des greffes de peau, à imaginer une sorte de greffe chirurgicale avec des ajouts, des implants qui ne sont pas humains, on y est. Mais là où la foi, et là toutes les religions en général, et je sais que dans mes relations avec mes confrères musulmans, nous en parlons, on dit modération, c'est-à-dire où est-ce que l'homme peut aller, pour qu'ils ne se prennent pas pour Dieu. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que Dieu a donné aux hommes l'intelligence, mais l'intelligence est dans le but d'épanouir et d'accomplir la destinée finale, ultime, qui est la gloire de Dieu. Donc à partir du moment où on fait toutes sortes d'expériences, on pourrait discuter longuement, par exemple, de tout ce qui se passe dans le domaine bioéthique, dans le domaine des sciences biomédicales, dans le domaine de la fin de vie, dans le domaine de tout ce qui se passe dans l'exobiologie. Eh bien, la foi appelle à une forme de modération parce que l'homme ne peut pas tout faire parce qu'il se retrouverait à se condamner lui-même finalement. Et c'est, je pense, le grand apport de la foi et des religions, et en particulier des religions abrahamiques, c'est-à-dire les monothéismes qui reconnaissent un Dieu unique.
Voilà. Il y a un auditeur qui s'appelle Augustin Aboy qui dit « La science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des hommes ». C'est Jean, il cite Jean Rostand. Il y a des croyances, des croyants, en tout cas, qui pensent que la Lune est une affaire divine et que l'homme vivant ne peut pas aller au paradis. Donc, dire qu'il y a des gens qui ont posé les pieds sur la Lune, que ce n'est pas vrai. Imam Dien, il y a des imams qui le pensent ainsi.
J'ai pas entendu. Je t'ai coupé un moment.
Oui, il y en a qui pensent que la Lune est une affaire divine. Que dire que des hommes ont, il y a des hommes qui ont posé le pied sur la Lune, que ce n'est pas vrai, et que l'homme vivant ne peut pas, par exemple, aller au paradis.
Oui, parce qu'à un moment donné, les gens ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le sens de la mesure que des performances que l'humain pouvait faire. Ils s'arrêtaient qu'il y a les continents, mais quand même, aller au ciel, c'est extraordinaire. Déjà, vous avez vu que vers la mosquée, ou bien à Jérusalem, il y a l'histoire d'Isra ou le Mirage où le prophète est allé au ciel. Il y a aussi le tombeau vide où Jésus est retourné au ciel. Donc, c'est des événements qui ont marqué l'histoire de l'humain. Mais à ces endroits, Al-Aqsa qui veut dire le bout du monde, et c'est de là-bas qu'on peut voyager pour aller au ciel. Bon, les gens, à un moment donné, ne savaient pas. Bon, ils n'ont pas évolué dans la science et les mathématiques. Les mathématiques ont très vite progressé. Les mathématiques ont très vite aussi fait que l'homme a aidé l'homme à relever certains défis, et ils ont fait, et c'est arrivé. Donc, dans le monde moderne, tout le monde maintenant est au diapason. Peut-être ceux qui nous ont précédés, comme d'actualité, ils ne peuvent pas le croire. Où est-ce qu'ils peuvent passer, par quel engin qu'ils peuvent voyager pour arriver à cette distance, qui était impossible. Par la pesanteur d'abord, et que rien ne pouvait rester sur l'espace, alors que maintenant, les gens voyagent sur la Lune, vont sur Mars, ils ont relevé tous ces défis et cherchent même à découvrir s'il y a des températures qui sont là-bas, est-ce que l'eau existe et tout ça. Donc, il faut suivre l'actualité, il faut vivre avec l'actualité, il faut développer l'actualité, et il faut être au diapason, c'est-à-dire être au courant de ce qui se passe dans le monde actuel. Et le monde actuel est très relié par l'informatique, la science, les découvertes, que ce soit médical, que ce soit atmosphérique et tout ça. On peut prévoir maintenant, parce que on disait, on ne peut pas croire que d'ici après-demain ou dans 4 jours, dans 5 jours, la météo peut être dite. Et la météo le dit, à l'heure H, jour J, il va pleuvoir à tel endroit. Donc il y a des maîtrises de la science et de l'astrologie ou l'astrologie qui ont fait que l'homme a relevé beaucoup de défis. Maintenant, dans ce monde moderne, tout se fait à la minute, tout se voit à la minute. Donc, on commence à s'orienter ou bien à relever le défi d'être au diapason. Il n'y a que la Lune, qui est un calendrier aussi pour l'humain, surtout nous pour les musulmans. Nous avons un calendrier lunaire de 29 jours ou de 30 jours. Donc, le monde a beaucoup progressé, a beaucoup évolué par la science.
Nous avons un auditeur, Imam Dien, on va revenir vers vous. Nous avons un auditeur, c'est Idriss. Idriss, bonsoir.
Bonsoir Eric. Je voudrais simplement compléter que les musulmans, ce qu'ils ont apporté comme science au monde entier. C'est-à-dire que en mathématiques, ce qu'on appelle algèbre, celui qui a inventé le livre Al-Tariq al-Jabr, c'est un certain Al-Khwarizmi qui a donné le nom de ce qu'on appelle aujourd'hui en mathématiques modernes l'algorithme. Les musulmans qui ont envahi la ville de Cordoue, qui était un centre de savoir, qui était un centre de propagation de la médecine, tous les écrits musulmans, j'ai dit bien musulmans, c'est eux qui seront après traduits en latin et qui sont gardés dans quelques monastères. C'est-à-dire que l'islam, au plan de l'évolution de l'humanité, a apporté des choses énormes. Ce qui m'étonne, c'est qu'après, en fait, dans le monde musulman, on n'en a rien fait. L'algèbre a été inventée par des musulmans et aujourd'hui, si on regarde les pays musulmans, ils sont le plus en arrière quand il s'agit du domaine de la science, quand il s'agit du domaine de la médecine, alors que c'est ce savoir-là qui s'est propagé jusqu'à la chute en fait de l'empire musulman d'Espagne en 1492. Et ce savoir-là en fait a été transporté ailleurs et c'est ça qui a fondé même en fait la puissance de Rome et même par la suite de l'Église catholique et de l'Occident.
Il y a un auditeur qui dit que la science tient une place prépondérante dans le Saint-Coran. C'est Mamadou Lamarane qui le dit. La science reste et demeure indispensable à toutes les activités de l'homme sur la planète pour lui faciliter la réalisation de ses projets. Nous avons un autre auditeur qui est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Allô? Oui. Bon, disons, la science et la foi, quelquefois, ne s'accordent pas sur une certaine ligne, un certain nombre de choses. En ce sens que, bon, vous voyez, nous croyons aussi à la science, parce qu'il y a eu des avancées, des développements du fait de l'homme, tout ça, à se stabiliser hein, sur la Terre et puis à s'épanouir. Mais quelquefois, j'ai eu à suivre un documentaire par rapport à l'Apollo, hein, les astronautes qui s'étaient posés sur la Lune. Il y a un documentaire qui remet en doute hein, cette expérience-là, comme pour dire que j'ai suivi les commentaires. Comme pour dire que sur la Lune, on a dit qu'il n'y a pas de l'air. L'air ne circule pas là-bas. Mais curieusement, lorsque les Américains se sont posés sur la Lune, ils ont hissé le drapeau qui flottait par le mouvement de l'air. Alors, les commentateurs de ce documentaire ont dit qu'il y a des doutes. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas astrologue, je ne sais pas. Ces doutes peuvent être balayés par une prochaine expédition. Parce que la science, c'est la répétition et c'est l'exactitude.
Merci. Merci de votre contribution. Nous avons Archéduc Théodore qui est en ligne. Archéduc, bonsoir.
Et bonsoir la VA et bonsoir à tout le monde.
Très rapidement, je vous écoute.
Ok. Pour moi, science et théologie sont deux choses différentes de telle sorte qu'on peut démontrer les attitudes de la science, mais la théologie, c'est une question de croyance. On arrête à ce point-là. Mais les religions ont tendance à aussi s'adhérer à la science. Par exemple, les prêtres catholiques jésuites sont ceux-là qui actuellement sont nombreux à faire la médecine, à faire les sciences, puisque la science est aussi l'autre action qui apporte un peu de plus dans la vie de l'humanité.
Merci Archéduc pour votre contribution. Makuma Mongo, il dit dans son commentaire, la science et la religion ont une grande incompatibilité concernant le fonctionnement de l'humanité. Alphonse Mbouaki dit que la vraie science ne piétine pas la volonté de Dieu parce que nous découvrons certaines connaissances après par rapport à Dieu. C'est Dieu qui maîtrise tout et il aime que nous entrions en possession de nouvelles choses. Et puis Valérie Caputa, il dit le pape Jean-Paul II avait fait une étude des planètes et du soleil en affirmant que la Terre est située au centre de l'univers et par là la Bible s'accorde parfaitement avec l'histoire et la science. Les positions de l'Église catholique ne changent rien aux travaux des ecclésiastiques engagés dans le monde scientifique. Il y a aussi le commentaire de Nathan qui dit « Je m'associe dans l'idée de Albert Einstein qui dit que la science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle. Benjamin, la science est la connaissance humaine qui a permis de connaître la nature de l'existence et de la créativité de l'élément dans la créativité de l'élément et on se pose des questions sur l'origine de l'être suprême qui veut pas se laisser découvrir. C'est bien, c'est Jules qui le dit, c'est bien par sa grande miséricorde que Dieu a doté l'homme avec beaucoup d'intelligence. La religion et la science marchent ensemble, à moins que les hommes croient au tout-puissant créateur, l'éternel Dieu. Et Alphonse Mbouaki qui dit, la Bible dit au comment était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il parle de la Bible. Père Steve, nous avons 2 minutes pour vous. Un commentaire sur...
Alors, allô, vous êtes toujours en ligne?
Oui, on vous écoute. Voilà. Voilà, il y a eu une intervention de Idriss. Il y a aussi les commentaires que je viens de vous lire. Père Steve.
Oui, alors je remarque vraiment, je félicite des auditeurs qui sont assez, permettez-moi l'expression, futés, c'est-à-dire assez perspicaces dans leur analyse. Je voudrais simplement apporter deux ou trois petites remarques, toujours dans les relations entre la science et la foi, en vous démontrant que, par exemple, dans l'histoire de l'évolution des sciences, il y a eu dans ce qu'on a appelé la civilisation arabo-musulmane, particulièrement forte au XIIIe et XIVe siècle, qui nous a donné l'algèbre, qui nous a donné les chiffres arabes que nous utilisons maintenant, qui nous a donné une grande part de la carte du ciel telle que nous la connaissons maintenant. Mais bon, ça a évolué, le ciel, c'est-à-dire les galaxies et les étoiles. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une paternité musulmane ou chrétienne. C'est-à-dire qu'au XVe ou XIVe siècle, les savants se côtoyaient dans la plupart des cours du Proche, du Moyen-Orient et d'Europe. Et donc, pourquoi est-ce que j'attire ce fait? C'est que c'est grâce à leur foi qu'ils ont abouti à la science, et c'est dans leur science que leur foi également a pu se complaire. Donc les deux ne sont pas forcément incompatibles. Seulement, nous avons tout à l'heure souligné, l'imam et moi, que la science peut connaître des dérives.
Très rapidement.
Nous devons également attirer notre attention sur le fait que la foi également peut être obscurcie par des croyances qui sont déconnectées de la raison. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux, et je pense que l'homme est créé pour cet équilibre entre foi et raison. Voilà.
Imam Dien,
oui.
Vous avez voilà, oui, un petit commentaire avant de terminer. Il nous reste moins d'une minute.
Oui. Un petit commentaire, oui, c'est l'évolution du mode de vie de l'homme contemporain qui relève les défis de la science. Et comme l'homme doit rechercher, doit progresser dans le sens du développement et relever les défis de la science pour pouvoir découvrir ce que Dieu a engendré et mis à notre disposition. Donc, ne nous arrêtons pas sur les nouvelles technologies seulement. Peut-être qu'il y a des mathématiques où on peut découvrir d'autres choses qui vont peut-être étonner le monde, mais qui seront à notre disposition.
Merci.
Ne nous arrêtons pas là, continuons à rechercher et soyons
Merci, Imam Omar Ndien, pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Merci au Père Steve Mike pour sa grande contribution également. À tous les auditeurs, Idriss, Archedic et d'autres, je vous retrouve mercredi prochain dans le même dialogue des religions. Au revoir.